20 часов в Париже. Париж,
он идет термометру.
Стада, Сехран, Бисуэко, Сиде.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde. Revenons sur les temps forts de l'actualité de la semaine avec le regard des rédactions de Radio France Internationale. Ce soir, dans ce studio pour la rédaction en anglais, Sarah Elsass.
Good evening.
Pisa Emam de la rédaction cambodgienne.
Soslay Philippe.
Et Miguel Martins, chef de la rédaction lusophone.
Boutard.
Bonsoir à vous tous. Alors cette semaine a été marquée par l'approbation par les Turcs en référendum de la réforme constitutionnelle. C'était dimanche dernier, une réforme qui donne plus de pouvoir au président sortant. Pisemam, vous diriez que ce 16 avril, la Turquie a utilisé un moyen démocratique pour mettre fin à la démocratie ?
Oui, Philippe, en effet, si on regarde les faits, la démocratie turque a déjà été suspendue depuis le lendemain du coup d'État raté en juillet dernier. L'état d'urgence a permis au président Erdogan à imposer une purge impitoyable auprès des sympathisants d'opposition, que ce soit dans la fonction publique, l'armée, la police, le secteur privé et surtout les médias. La victoire de ce référendum va institutionnaliser ou légaliser les grandes lignes de ses ambitions politiques et instaurer un régime autocratique qu'il entend mener depuis longtemps. Le pluralisme politique en Turquie sera désormais menacé. Les oppositions seront mises à mal encore plus. Le régime présidentiel voulu par Erdogan sera surtout un régime autoritaire.
Pisemam, victoire, on disait, certes, mais de justesse. Cela explique que la légitimité du pouvoir du président Erdogan reste fragile.
Oui, Philippe, en effet. D'autant plus quand on sait très bien que ce référendum a été organisé dans un contexte de répression en permanence. Si on regarde le résultat, on voit que l'électorat turc s'opposant à ce projet est assez présent et solide dans les grandes villes, et ce malgré les répressions. Jusque-là, le succès de l'AKP est dû au résultat positif de l'ouverture économique du pays. Mais avec cette crise depuis un an, l'économie turque montre ses signes de faiblesse. Par ailleurs, les purges après le coup d'État ont des conséquences terribles pour l'économie turque. 800 entreprises, toutes tailles confondues, sont confisquées. Et des milliers de personnes, aussi bien dans le public et le privé, se trouvent du jour au lendemain sans emploi et sans revenus. Donc d'emblée, la Turquie rentre dans une phase très incertaine politiquement et économiquement.
Donc on parlait d'une victoire de justesse. D'ailleurs, le scrutin a été contesté par l'opposition, qui a même réclamé un nouveau décompte des voix. Ce scrutin a été suivi par de nombreux observateurs internationaux. Miguel Martins, vous avez pu joindre l'un d'eux. Qu'est-ce que ces observateurs européens ont retenu de ce scrutin ?
Bon, il s'agit à la fois de deux missions d'observation. Une, c'était donc l'Organisation pour la sécurité et coopération en Europe. Une autre, pour le Conseil de l'Europe, des observateurs qui avaient été déployés en effet en Turquie. Duarte Marques est député portugais du Parti social-démocrate. Il s'est donc rendu en Turquie à cette occasion, au sein de la mission du Conseil de l'Europe, un organisme qui dénonçait des disparités très fortes entre les moyens de campagne du oui, soutenu par le pouvoir, et celle du non. Je vous propose de l'écouter.
Alors que dit Paulo Duarte ?
Donc il nous disait que le fait que la place accordée aux deux campagnes n'avait absolument pas été les mêmes, les médias, qu'ils soient publics ou privés, ont accordé beaucoup plus de place à la campagne du oui, soutenue par le président Erdogan, avec des médias de campagne là aussi complètement disparates, d'autant plus que la liberté de la presse n'a cessé de se détériorer en Turquie, ce qui met en cause la transparence de la démocratie et l'organisation du référendum en tant que tel.
Alors, Miguel, il faut également dire que la Turquie est en état d'urgence actuellement, à la suite de cette tentative avortée de coup d'État qui remonte à juillet dernier.
Oui, mais là aussi, Philippe, notre interlocuteur nous disait que les bonnes pratiques internationales recommandent déjà de ne pas effectuer de changement constitutionnel alors que l'état d'urgence est en vigueur. Je vous propose de l'écouter à nouveau.
Les bonnes pratiques internationales recommandent clairement que non se fasse alterações constitucionais em períodos de estado de emergência.
Duarte Marques, donc observateur du Conseil de l'Europe, nous disait qu'une chose, c'est de mener à bien des élections. Ce sera le cas en France ce week-end, alors que l'état d'urgence est là aussi toujours en application. Un référendum constitutionnel, c'est encore un autre cas de figure. Par ailleurs, certains partis ont été autorisés à participer à la campagne. Les ONG, elles, ont été exclues. Et d'un autre côté, alors que l'on parlait de 18 amendements sur le bulletin de vote, il n'y avait que deux choix généraux, oui ou bien non, mais rien n'était détaillé par rapport aux différentes propositions faites à l'occasion de cette consultation populaire, ce qui porte préjudice à la transparence requise pour ce référendum.
Sarah Elsass, le service anglophone de RFI avait envoyé un reporter en Turquie, Tony Cross, qui a passé une semaine avant le référendum. Il est allé dans l'est du pays pour parler avec les Kurdes, qui pour la plupart étaient pour le non, car Erdogan veut arrêter les discussions menées avec le PKK.
C'est ça, avec les séparatistes kurdes. Et donc on a vraiment vu là, avec ces reportages de la division dans le pays, les Kurdes font 20% de la Turquie, mais même en votant non, c'était pas assez pour basculer dans le non. Tony, ensuite, après le vote, est allé à Ankara. Et là, pour analyser la situation, je vous rappelle, le vote, c'était 51,41% pour 48 pour le oui, voilà, 48,59% pour le non. C'est assez proche. Et comme Tony a parlé avec des gens, ils ont expliqué que c'est vraiment, on voit une polarisation géographique et ethnique, là on voit les Kurdes et les Turcs, une polarisation sans précédent, lui a dit Sijdem Toker, c'est une journaliste pour le journal Cumhuriyet.
Katılıyorum. Fazlasıyla bizde bir deyim vardır.
We have a phrase in Turkey, split in two like a watermelon.
Donc là, elle dit, nous avons une phrase en turc qui dit diviser en deux comme une pastèque. Voilà. Normalement, les politiques encouragent la polarisation pour des questions de propagande, elle dit, mais là, c'est venu vraiment tout seul et c'est vraiment plus aigu que jamais en Turquie.
C'est une position à propos de laquelle tout le monde n'est pas d'accord.
Bah, ça, c'est sûr. Donc, voici Fatih Sönmez, un avocat militant du parti AKP, du parti des Rohan, qui a fait campagne pour le oui. Dans le référendum.
Bizim ülkenin zaten yapısında aslında ben böyle bir şey olacağını düşünmüyorum.
No, I don't think it's a polarization.
Alors, que dit cet homme, ce militant politique?
Voilà, là, il dit, il pense pas qu'il y a une polarisation. Il dit, c'est comme ça que fonctionne la démocratie quand on a que deux options. Bah, voilà, comme on avait évoqué tout à l'heure, que deux options. Voici ce qui se passe. C'est pareil aux États-Unis, c'est pareil en Europe. Il dit, je pense que ce résultat va forcer tout le monde à coopérer ensemble. Donc, des mots d'espoir peut-être, mais comme on a évoqué tout à l'heure aussi, il y a vraiment des questions de légitimité du vote. Suite à des restrictions, par exemple, sur la liberté de la presse. La journaliste qu'on a entendue tout à l'heure, Sijdem Toker, parlait de son journal. Il y a 11 membres de leur équipe qui ont été en prison pendant 5 mois cette année. Elle a dit qu'il y a 150 journalistes actuellement en prison en Turquie. Pas rien.
Et l'un des arguments de Erdogan qui a fait envoyer ces journalistes en prison, c'est de dire « c'est moi ou le chaos ». Donc c'est la raison pour laquelle il faut voter pour ma réforme constitutionnelle. Pizemam, finalement, c'est pas sans rappeler ce qu'a pu dire le Premier ministre cambodgien récemment.
Oui, Philippe, cette rhétorique « c'est moi ou le chaos », on a déjà entendu au Cambodge. Justement, ce matin même, le Premier ministre cambodgien Hun Sen avait rappelé au peuple que le peuple cambodgien a deux choix, deux options. Soit voter pour lui pour qu'il reste au pouvoir, soit c'est la guerre. Donc, dans à peine un mois, il y aura une élection municipale au Cambodge. Et ces derniers temps, le parti de M. Hun Sen a multiplié des actions pour empêcher l'opposition à se représenter. Par ailleurs, il avait fait voter une loi permettant de dissoudre un parti politique si le chef est condamné par un tribunal alors que le pouvoir contrôle fermement l'appareil judiciaire. Donc, les perspectives démocratiques au Cambodge ne sont guère mieux que la Turquie.
Vous écoutez Accent du Monde sur Radio France Internationale.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Autre élection après-demain, ce sera le premier tour de l'élection présidentielle en France. À suivre, bien évidemment, avec des éditions spéciales sur les antennes de RFI. Ce sondage, Odoxa, tiens, qui vient de tomber. Macron, 24,5%. Devant Le Pen, 23%. Fillon, 19%. Mélenchon, 19%. Macron qui battrait Le Pen au second tour avec 62%. Scrutin donc très suivi dans le monde, comme par exemple dans les pays anglo-saxons. Sarah Elsass, quels sont les candidats qui intéressent et qui intrigue dans cette présidentielle?
Il faut dire vraiment que là, c'est Marine Le Pen. Là, elle fait la une de beaucoup de journaux. C'est vraiment, tout le monde veut savoir qui est cette personne. Ils la connaissent, mais c'est vraiment elle qui intrigue tout le monde. Après le Brexit, la sortie
de
l'Union Européenne. Après l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Maintenant,
surprise,
on regarde la France. Voilà.
Surprise
oui.
Et populisme dans les deux cas.
Et populisme avec un peu des mêmes idées. Marine Le Pen, maintenant, on dit, est-ce que c'est la troisième fois? Donc, elle intrigue beaucoup. Après, après, il faut dire que les scandales et les allégations autour de François Fillon, des Républicains, ça, ça intéresse parce que bah, les scandales, ça intéresse toujours, mais il faut dire qu'on lit pas beaucoup sur lui.
Et quel favori, Emmanuel Macron?
Bah, voilà, Emmanuel Macron, il y a de la curiosité. Alors lui, il est très ouvert au monde anglo-saxon, il est très, il parle de la technologie, la modernisation de l'économie. C'est vrai que ça a l'air d'intriguer beaucoup de gens, mais pareil, il faut dire que un peu côté people aussi, il y a beaucoup d'articles sur le fait qu'il est marié avec son prof du lycée. Je ne sais pas si ça.
Une grande histoire. Voilà. Cela dit, François Fillon est marié avec une de vos ressortissantes.
Une de Pays de Galles, voilà. Ça c'est vrai. Mais bon, après, c'est du people. Mais comme je disais, Marine Le Pen, c'est vraiment celle qui intrigue. C'est peut-être la personne qui va vraiment faire basculer la France. Hein.
Alors ça, c'est ce qui préoccupe, on va dire, les anglo-saxons. Ce que vous avez voulu savoir également, c'est comment des Français qui vivent dans ces pays anglo-saxons, anglophones, appréhendent cette élection. Comment est-ce qu'ils voient les choses?
Voilà, on se posait la question, parce qu'il y a plein de Français qui vivent en Angleterre, aux États-Unis. Comment est-ce qu'ils voient les choses? Bah, voici deux voix. Une à Chicago. On a Gérald Bermond, un chercheur, qui nous a dit d'abord que c'est plus facile, en fait, de suivre la campagne française de l'étranger.
We are not watching the same news channels and consequently we have more filters.
Donc là, il dit, nous regardons pas les mêmes programmes de télévision, donc nous avons plus de filtres en ce qui concerne les scandales, par exemple, et donc plus de place pour focaliser sur les idées, les programmes. Alors, il voulait pas nous dire pour qui il va voter, mais il dit que le meilleur candidat est celui qui peut, et je cite, commencer la transition entre le vieux modèle économique du XXe siècle et le nouveau modèle qui est celui du travail, l'égalité, le respect de l'environnement.
Autre témoignage.
Nous avons parlé avec Antoine Autan qui travaille dans la finance à Londres et il dit que lui, il est déçu par les Français qui dit résiste le libéralisme économique.
You would still see almost half of the electorate still supporting.
Donc là, il se plaint que la moitié de l'électorat français soutient des politiques antilibéraux qui représentent le regard interne de la France. Il dit c'est une France qui ne comprend pas la mondialisation, une France qui est coincée dans le XXe siècle, qui ne comprend pas le monde d'aujourd'hui. Assez négatif comme vu. Pareil, lui, il voulait pas dire exactement pour qui il allait voter, mais on a peut-être, on pourrait peut-être deviner.
Oui, je pense qu'on a compris. En tout cas, bien évidemment, la rédaction anglophone de RFI suivra ça dès dimanche soir.
On va aussi regarder un peu partout dans le monde comment ça, les réactions à cette élection qui va vraiment avoir des
répercussions. Sarah Elsass de la rédaction anglophone de Radio France Internationale. Dans l'actualité, il y a également la France qui vient de nommer son nouvel ambassadeur au Cambodge. Il s'agit en fait d'une ambassadrice, d'une femme, dont la particularité, Pizemam, est d'être d'origine franco-vietnamienne.
Oui, Philippe. D'après le journal francophone en ligne au Cambodge, le président de la République française vient de nommer Madame Eva Nguyen Binh comme nouvelle ambassadrice de la France au Cambodge. Née d'un père vietnamien et une mère française, elle a déjà occupé plusieurs postes dans les consulats de France à l'étranger et dernièrement en tant que conseillère de coopération et action culturelle à l'ambassade de France au Vietnam.
Alors justement, elle a travaillé donc au Vietnam, elle est d'origine vietnamienne et ça crée une certaine polémique.
Oui, Philippe, vous savez, le Cambodge actuel est en plein obsession anti-vietnamienne. Ce n'est pas nouveau, mais c'est encore plus maintenant, surtout à cause des fake news sur les réseaux sociaux.
Donc il existe
toutes sortes de calomnies. Donc, par ailleurs, les élites nationalistes cambodgiennes entretiennent l'idée que la France, le puissant protectorat autrefois, a toujours préféré le Vietnam qu'au Cambodge. Le fait de placer une diplomate française d'origine vietnamienne pour représenter la France et le sol cambodgien, c'est juste méprisant et inacceptable.
Ouais. Alors, vous l'évoquiez, hein, le Cambodge et le Vietnam ont des conflits territoriaux notamment.
Oui, c'est d'ailleurs pour ces raisons que plusieurs associations représentant la communauté cambodgienne en France ont envoyé une lettre à François Hollande le 14 avril. Il faut souligner que ces associations font partie de courants politiques très nationalistes et parfois extrêmes et soutenus par l'opposition cambodgienne. Il existe plusieurs questions épineuses entre le Cambodge et le Vietnam, notamment des questions frontières et aussi des questions de migrants vietnamiens au Cambodge. Le gouvernement cambodgien a demandé l'aide de la France pour son expertise impartiale concernant des questions de frontières. Mais pour l'opposition et les nationalistes khmer, la nomination de nouvelle ambassadrice reflète l'impartialité de la France au profil du Vietnam.
Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur la nomination de cette nouvelle ambassadrice. C'était Pizemam de la rédaction cambodgienne de RFI. Quant à la rédaction lusophone, elle s'est intéressée au fait que les ressortissants de l'Union européenne, plus ceux du Royaume-Uni, pourront être exemptés de visa d'entrée au Cap-Vert, et ce à compter du mois prochain. Miguel Martins, c'est donc une bonne nouvelle pour les touristes qui veulent se rendre au pays de Cesaria Evora, la voix qui a dévoilé au monde les charmes de ce petit archipel d'Afrique de l'Ouest.
Tout à fait, c'est du moins celui-là l'argument du gouvernement en place au Cap-Vert, un pays qui fait partie de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, mais qui a encore récemment confirmé souhaiter pousser sa coopération avec l'Europe à la limite de l'adhésion. C'est donc dans ce cas en particulier l'idée, ce que l'on veut mettre sur place, c'est développer encore plus le tourisme et les investissements qui en découlent. Je vous propose d'écouter ainsi le Premier ministre.
A partir de maio, queremos tornar efetiva a medida de isenção de vistos para cidadãos da União Europeia.
Quel est le propos du chef de l'exécutif capverdien?
Ulysses Correia Silva nous faisait état que cette mesure comprend également les ressortissants britanniques à cause de l'importance de ce marché pour le tourisme au Cap-Vert. L'idée, c'est donc de développer davantage le tourisme et les investissements tout en supprimant les barrières créées par les visas en termes de libre circulation. Et ce, dans le cadre d'une stratégie plus large qui comprend l'intégration du pays à proximité d'espaces économiques perçus comme étant dynamiques. Il faisait donc allusion à l'Union européenne.
Les industriels du secteur, bien évidemment, applaudissent à cette réforme, puisque c'est plus de flux, c'est plus d'entrants, c'est plus de commerce.
Voilà, c'est tout l'intérêt, en effet, de cette mesure. George Spencer Lima est le président de la Chambre de commerce, industrie et services des îles sous le vent, donc au sud de l'archipel. Je vous propose de l'écouter.
O objetivo estratégico fundamental é claramente facilitar a entrada do turista em Cabo Verde com vista a aumentar o número de...
Quel est son message?
Voilà, donc il dit que le but stratégique, c'est en effet de rendre plus facile l'arrivée de touristes dans l'archipel, et ce de façon à ce que le nombre de nuitées puisse là aussi être plus conséquent, pour faire en sorte que les hôtels, je disais, actuellement en construction, ne deviennent donc pas des éléphants blancs.
Alors cela dit, ce qu'a décidé le Cap-Vert, c'est une mesure unilatérale, ça veut dire concrètement qu'il n'y aura pas de réciprocité, ça veut dire que les Capverdiens devront toujours demander un visa pour se rendre en Europe.
Voilà. Voilà toute la question. La non-réciprocité, c'est justement l'une des critiques soulevées par le PASCV qui a été plusieurs années au pouvoir, qui est le principal parti de l'opposition. Il faut dire que dans la région, le Sénégal, tout proche, a également une industrie touristique très poussée. Or, Dakar avait déjà décidé de revenir sur cette exemption de visa pour les ressortissants européens, puis a fini par faire marche arrière. L'enjeu économique était trop important. Un autre pays de langue portugaise, en Afrique, Saint-Thomé et Principe, c'est en Afrique équatoriale, a de son côté exempté également de visa les ressortissants européens pour des séjours allant jusqu'à 15 jours. Revenant en Afrique de l'Ouest, il faut rappeler que la CEDEAO, la communauté d'intégration régionale, prévoit de son côté la libre circulation de personnes seulement pour 90 jours dans le cadre ouest-africain. Ce sont là donc des logiques qui en quelque sorte se chevauchent pour le Cap-Vert. Et Lucid, qui est le troisième parti capverdien, estime que cette mesure du gouvernement est somme toute secondaire.
Secondaire, parce que pour nous, ce qui est le plus important...
Qui est-ce qui parle?
C'est Antonio Monteiro, le président de Lucid, la troisième force politique capverdienne. Il entend qu'il s'agit là d'une mesure secondaire. Pour lui, le plus important pour le pays, pour le peuple, ce serait donc trois paris importants: la création de nouveaux emplois, le bien-être social et la croissance de l'économie. Faute de ressources naturelles, cependant, le tourisme, qu'il soit culturel, musique notamment, on en parlait, Cesaria Evora, au balnéaire, des randonnées, des sports nautiques, le tourisme prend, je disais, de plus en plus d'ampleur dans l'économie du petit pays de Cesaria Evora.
Et donc, il faut aller au Cap-Vert, c'est désormais beaucoup plus facile qu'avant. C'est
ce que vous dites, Miguel Martins.
Merci à vous, Miguel Martins de la rédaction lusophone de RFI. Merci à vous tous pour cet éclairage sur ce qu'il y a à écouter sur les antennes de Radio France Internationale. Dans quelques instants, l'essentiel de l'actualité du monde sur RFI.